Europe Matin, Combline Roche, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le vendredi 8 octobre.
Allez Théo, ah, oh, il a pris le temps de contrôler.
La remontada des Bleus face aux Belges. Vous l'avez peut-être suivi hier soir sur TF1, je ne sais pas vous. Mais moi, je me suis couché à la mi-temps, il y avait 2-0 pour les Belges. Et quand le réveil a sonné à 1h du mat, je découvre le score 3-2 pour les Français. Les Belges ont le seum. Reportage savoureux avec des supporters belges et français à suivre dans le journal de 5h30.
Dans vos journaux aussi, dès 5h, nous reviendrons sur l'autre info de la soirée, la mort d'une grande voix d'Europe 1. Étienne Moujotte, l'ancien directeur de l'info et ancien grand artisan du succès de TF1. Enfin, il nous a quittés hier soir à l'âge de 81 ans, passionné de sport, de musique et de politique, bien sûr.
La politique aujourd'hui, c'est le sommet France-Afrique à Montpellier, un sommet inédit puisque pour la première fois, la toute première fois depuis 1973, aucun chef d'État africain n'est invité. La ministre déléguée Elisabeth Moreno nous expliquera pourquoi elle sera avec nous à 6h10. Et puis avant cela, à 5h40, on bline un sujet qui pourrait prêter à sourire et pourtant très sérieux.
Oui, la connerie, Sébastien. C'est très sérieux, effectivement, la connerie peut être même grave quand elle détruit la vie de quelqu'un. Et elle va faire l'objet d'une grande conférence à Marseille la semaine prochaine. Les constellations de la connerie sont au programme de la 13e édition de la semaine de la pop philosophie. Des conférences se tiendront dès lundi, menées par des philosophes, des universitaires, historiens, des psychiatres. Il sera question de la connerie en politique, de la médiaconnerie ou encore des jobs à la con. On sera à 5h40 avec Jacques Serrano, le directeur artistique de la semaine de la pop philosophie.
Je suis sûr qu'on parlera d'Audiard. Et puis votre partition, Ombline.
Une voix qui étonne toujours depuis 25 ans maintenant. Elle est douce et foncièrement enfantine.
It's all so quiet. It's all so still.
La chanteuse suédoise Lisa Ekdahl est de retour avec un nouvel album aujourd'hui. On va en profiter pour retourner à ses débuts. Rendez-vous à 6h20.
Merci Ombline, à tout à l'heure. Merci d'écouter également Europe 1, mais n'oublions pas l'essentiel, bien sûr, la météo, Anissa Haddadi.
Bonjour,
bonjour Anissa.
Bonjour Ombline.
Bonjour.
En plus, c'est une belle journée d'automne qui s'annonce, non, pour terminer la semaine.
On n'a jamais autant attendu le week-end, parce que c'est vrai que je reconnais que depuis lundi, je vous dis que le week-end va être magnifique.
Ouais.
Bon, ça se confirme et ça commence par aujourd'hui.
Très bien.
On a un temps très calme hein, sur l'ensemble du pays aujourd'hui. Comme toujours, en automne, c'est une tradition, vous le savez, avant l'arrivée du soleil, on est obligé de passer par une petite phase de brouillard, de nuages bas le matin. Alors ce matin, ils sont très nombreux, hein, les brouillards. Sur les Hauts-de-France, la région parisienne, le centre-val de Loire, les Ardennes, la Lorraine, l'Auvergne, le Limousin, le Lyonnais, les Pyrénées-Atlantiques, voilà, dans toutes ces régions, soyez très prudents au volant ce matin. Dans l'après-midi, le soleil s'impose presque partout. On a encore un léger risque d'averse sur le Cap Corse. Voilà, c'est un petit peu grisonné sur le nord de la Corse. Et puis le Mistral et la Tramontane, toujours dans le sud, mais bien moins fort qu'hier. Les températures, couvrez-vous ce matin. On a 3 degrés à Guéret, 5 à Charleville-Mézières, 7 à Mulhouse, 8 à Chambéry, 11 à Paris, 12 à Nîmes et 16 à Nice. Cet après-midi, c'est quasiment comme hier, 14 à 25.
Merci Anissa, à tout à l'heure. Il est 5h sur Europe 1, bienvenue.
Europe Matin,
Ombline Roche, Sébastien Guyot.
Votre premier journal et des réactions en cascade après le décès d'Étienne Moujotte hier à 81 ans des suites d'un cancer. Ancien directeur de l'information d'Europe 1, ex numéro 2 de TF1. Retour sur la vie de l'homme qui a marqué l'histoire des médias français dans un instant. Une exclusivité Europe 1. Jean-Michel Blanquer réagit aux propos d'Éric Zemmour qui estime qu'en acceptant les élèves transgenres à l'école, il fait preuve d'un comportement indigne et honteux, allant jusqu'à le comparer au docteur Mengele, médecin criminel de guerre à Auschwitz. La réponse du ministre de l'Éducation à suivre. Et puis en foot, je vous le disais, la remontada puis la victoire des Bleus après une première mi-temps compliquée. La France a finalement battu les Belges hier en demi-finale de la Ligue des Nations. 3-2. Retour sur cette rencontre à la fin de ce journal. Le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Un grand des médias nous a quitté, Étienne Moujotte, 81 ans après un demi-siècle de carrière pour ce journaliste, ancien directeur de l'information d'Europe 1, ex numéro 2 de TF1. Il a succombé à un cancer. Retour sur un parcours exemplaire avec Caroline Baudry.
Est-ce qu'un jour je pourrai franchir les portes d'Europe 1 et peut-être même
un jour parler au micro d'Europe. C'était ça mon rêve.
Le rêve réalisé d'Étienne Moujotte, ancien patron d'Europe 1. Interrogé sur notre antenne en 2007, il revenait sur sa carrière qu'il débute à Paris-Normandie comme jeune journaliste avant de briller dans les rédactions de France Inter, Europe 1, RTL, Le Figaro notamment. Numéro 2 de TF1, dès 1987, il transforme la chaîne en machine à audience, leader de la télévision française. À ses côtés pendant 40 ans, le patron de presse Francis Morel, son collègue et ami.
Moi, ce qui me frappe chez Étienne, c'est que toutes ses expériences professionnelles sont soldées par des réussites exceptionnelles. Et je rajoute pas. Et humainement, il y a une chose que je dois dire, c'est que c'était quelqu'un d'extraordinaire parce que de très intéressé par les gens. Et c'est ça qui faisait sa réussite, à mon avis, c'est que humainement, c'était quelqu'un d'exceptionnel.
Un homme discret sur sa vie privée, décrit comme sensible, cultivé. Radio Classique est la dernière maison qu'il a dirigée. Il raconte y avoir réuni ses deux passions, la musique et l'information.
Et à Marseille, dernier adieu au boss avec les obsèques de Bernard Tapie ce matin à la cathédrale de la Major. Suivi de l'inhumation au cimetière de Mazargues. Hier, les représentants de l'OM et fans ont porté son cercueil jusqu'au centre de la pelouse du stade Vélodrome sous les yeux de 4000 supporters.
En exclusivité sur Europe 1 ce matin, Jean-Michel Blanquer répond à Éric Zemmour.
Le polémiste qui a accusé dans Punchline mercredi soir sur Europe 1 le ministre de l'Éducation d'adopter un comportement honteux et indigne en acceptant les enfants transgenres à l'école, allant même jusqu'à le comparer au docteur Mengele, médecin criminel de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale.
Si un enfant, je le répète, vient dire « Ah ben non, je suis pas une fille, je suis un garçon », on doit admettre son nouveau prénom. Et puis quoi encore ? Vous savez, c'est vraiment criminel. La vérité, c'est que qu'est-ce qu'on va faire après ? On va bloquer par des piqûres, on va bloquer la puberté de ces enfants pour qu'ils décident après quel est leur genre. Mais vous rendez compte, on est vraiment dans le docteur Mengele, quoi. C'est des expériences absolument scandaleuses que vous faites aux États-Unis.
Vous comparez Jean-Michel Blanquer au docteur Mengele. Vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites ?
Ah mais tout à fait, je m'en rends compte très bien.
Et dans la France bouge sur Europe 1 depuis Poitiers, tout à l'heure à partir de 13h, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil reçoivent le ministre de l'Éducation à l'occasion de la présentation de son plan pour un rapprochement entre l'école et l'entreprise. Interrogé sur les propos du polémiste, Jean-Michel Blanquer répond.
Ce qui est excessif et dérisoire, et la comparaison que vous venez de dire ne mérite même pas une réponse tellement elle est absurde et évidemment dégradante pour celui qui la formule. Mais surtout, on voit bien qu'il est entré en campagne et que, du coup, la caricature et le mensonge ne les feraient pas. Ce qu'il a dit est totalement faux sur cette circulaire. Le sujet n'est pas d'avoir une course à l'identité sexuelle. Le sujet, c'est que tout le monde se sente égal et bien dans un établissement scolaire. Donc il suffit de lire cette circulaire pour comprendre que M. Zemmour a dit n'importe quoi. Simplement, ça enflamme les esprits, ça divise la société pour rien, ça insulte, en l'occurrence ça insulte votre serviteur, c'est dommage, je pense que son cerveau mérite mieux que ça, mais en tout cas je pense qu'on doit éviter dans cette campagne de rentrer dans ce genre de polémiques qui finalement sont très malsaines parce qu'on fait croire aux gens des choses qui n'existent pas. Encore une fois, sa méthode, on la voit bien là, elle consiste à pointer un problème qui existe bel et bien, hein, des dérives qui existent ailleurs, je suis le premier à le dire, mais de faire comme si c'était ce que nous faisions, et comme si c'était une réalité générale. Et ça, c'est évidemment très dangereux.
Entretien avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, à retrouver en intégralité à partir de 13h dans La France bouge sur Europe 1. Que se passe-t-il après les cours dans la prestigieuse école d'ingénieurs centrale Supélec ? Le parquet d'Evry ouvre une enquête préliminaire après la révélation dans une étude d'une centaine de faits de harcèlement sexuel, agression sexuelle et même viol sur l'année universitaire.
Entrepreneuriat, sport, culture, gouvernance démocratique, autant de sujets à l'ordre du jour du sommet Afrique-France aujourd'hui à Montpellier. Un sommet Alban, on peut le dire, inédit.
Oui, avec des jeunes qui seront peut-être les acteurs essentiels de la relation dans les 10 ou 20 ans qui viennent, souligne l'Élysée. 3000 invités, dont 1000 venus de l'autre côté de la Méditerranée. Mais aucun chef d'État, mis à part Emmanuel Macron. Louis de Ragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Comment l'expliquez-vous ?
Tout d'abord, il faut bien observer la terminologie choisie par l'Élysée. Un sommet Afrique-France et pas France-Afrique. Alors, l'objectif de Paris est d'organiser une sorte de sommet renversé où, je cite, ceux qui d'habitude ne sont pas invités dans ce type de rencontre seront au cœur de l'événement. Les entrepreneurs et la société civile engagés dans les relations Afrique-France, donc dans la continuité du discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017, où il s'était engagé en faveur de la jeunesse africaine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'initialement, le chef de l'État avait souhaité un sommet en grand avec des invités internationaux, des responsables politiques, mais avec l'actualité compliquée au Mali, vous savez, les mercenaires de la société russe Wagner cherchent à convaincre la junte militaire de sortir la France du pays. Eh bien, pour éviter de créer un incident, c'est un sommet beaucoup moins sensible avec très peu d'enjeux géopolitiques qui se tiendra aujourd'hui.
Merci Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Et de ce sommet Afrique-France, on y reviendra bien entendu avec la ministre déléguée auprès du Premier ministre Elisabeth Moreno à 6h10. Le temps attendu redémarrage du tourisme après une année blanche grâce aux vacances de la Toussaint.
Elle commence dans deux semaines. 20% des Français prévoient de partir grâce notamment à la situation sanitaire qui s'améliore de jour en jour. Plusieurs acteurs du tourisme le confirment. La tendance des réservations est à la hausse. Les dépenses aussi, Aurélien Fleureau.
La nouvelle norme pour réserver était devenue la dernière minute. Mais ces vacances de la Toussaint marquent le début du retour de l'anticipation. Moins d'incertitudes et des chiffres en hausse, constate Solange Escure, directrice générale des Gîtes de France.
On a un taux d'occupation qui, par rapport à 2019, est supérieur de 8 points. Donc on observe la même chose que sur ces derniers mois, c'est-à-dire une demande sur l'ensemble du territoire, sur un hébergement où il y aura de la distanciation sociale, sur un hébergement confortable.
Campagne ou bord de mer, pas forcément très loin de chez soi, et des courts séjours. Un constat partagé par Sébastien Venturini, le président de weekendesk.fr, qui a également noté une hausse des dépenses chez ceux qui peuvent partir.
Au sein de nos séjours, on rajoute des activités. Maintenant, c'est un séjour, une offre de restauration, une offre de bien-être, et d'autres vont rajouter une activité culturelle, une activité sportive. Les gens ont tendance à dépenser plus pour se faire plaisir.
Et pour ceux qui voyageront hors de France, l'Espagne fait partie des destinations les plus prisées selon le moteur de recherche Liligo.
Aurélien Fleureau du service Éco d'Europe 1.
Et puis en football, enfin le retour des Bleus des grands soirs.
Ouais, même s'ils nous ont fait un petit peu peur. Hein. La Belgique, une nouvelle fois renversée par la France en demi-finale de la Ligue des Nations hier soir. Sorte de retour en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 pour les Diables Rouges. Résultat 3-2 pour les Bleus qui se qualifient pour la finale de la Ligue des Nations. Cyril Delamorinerie, au terme d'un match, on peut le dire, fort en émotion, ils nous ont fait très peur.
Oui, une seconde période incroyable. Les Bleus étaient menés 2-0. Karim Benzema et Kylian Mbappé décident de sonner la révolte. L'attaquant du Real Madrid marque entre trois défenseurs. Le Parisien de 22 ans transforme un pénalty de partout avant l'emballement final. Un but de Lukaku refusé pour un hors-jeu. Paul Pogba sur coup franc touche la barre transversale. Et finalement, Théo Hernandez envoie un boulet de canon en pleine lucarne. 3-2 pour les Bleus, Patrick, supporter français, est aux anges.
La volonté, ils se sont donnés plus en deuxième période qu'en première. On a une superbe équipe de France.
Didier Deschamps, grand sourire, est allé embrasser tout son staff, puis l'ensemble de ses joueurs. C'est la première fois depuis le début de son mandat que les Bleus s'imposent après avoir été menés 2-0.
C'est fabuleux ce que l'équipe de France a réussi à faire. Par moi, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient penser qu'on allait renverser cette situation. Il y a toujours cet état d'esprit, cette force de caractère pour inverser la tendance.
Et après ce match homérique, les Bleus vont désormais se rendre à Milan. Ils affronteront dimanche soir l'Espagne en espérant décrocher un nouveau titre.
Et France-Espagne en finale de la Ligue des Nations. Rencontre à suivre dimanche soir en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport avec Lionel Rosso et tout le service des sports d'Europe 1 à partir de 20h.
Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Alban. À tout à l'heure.
Il est 5h10 sur Europe 1. C'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 103 Armour As. Ce trotteur reste sur une facile victoire à Vincennes le 23 septembre. Un succès qu'il vient malheureusement de perdre sur le tapis vert pour des raisons administratives. Mais sachez qu'il est resté dans un état de forme optimal. La qualité de l'engagement auquel il est confronté sur un parcours qu'il apprécie devrait lui permettre de trouver dès ce soir une juste compensation à ses récents déboires. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la première course, le numéro 3, Armour As.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Bon réveil sur Europe 1, vous restez avec nous. Dans une minute, c'est le pressing.
Oui. Au menu ce matin, la disparition d'Étienne Moujotte, un super-héros de la gendarmerie, et le tueur en série du Zodiac, peut-être démasqué. À tout de suite.
Votre matinale info, c'est Europe Matin, présenté par Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, bienvenue.
6h50, la revue de presse internationale. 7h20, l'édito sport. 8h15, l'interview politique de Sonia Mabrouk.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Rendez-vous tous les matins, 6h30 sur Europe 1.
Omblin Roche et Sébastien Guyot
sur Europe 1. Il est 5h12, excellent vendredi. Vous avez raison de vous réveiller avec nous. Et en plus, pour vous aider à vous lever, eh bien, on s'est mis à 3. Bonjour Martin Lange.
Bonjour Omblin, bonjour Sébastien,
bonjour
à tous.
Bonjour Martin. Vous nous rejoignez pour le pressing, les articles qui nous ont interpellés ce matin dans la presse. Mais d'abord, c'est le traditionnel coup d'œil aux unes de vos journaux. Et comment ne pas débuter avec la une de l'équipe ? Le seum de foi. Et oui, sa chambre ce matin, avec la remontada des Bleus, menée 2-0 par les Belges. Ils s'imposent 3-2 à la toute dernière minute en demi-finale de la Ligue des Nations. Le seum des Belges, on nous en parle, on vous en parle depuis le Mondial 2018. Le gardien belge, Thibaut Courtois, qui n'avait pas digéré l'élimination en demi-finale, estimant que les Diables Rouges avaient mieux joué que les Bleus, aurait dû se qualifier. Depuis, les réseaux sociaux ont monté en épingle le seum belge. Avoir le seum, vous savez ce que ça veut dire ?
C'est
la rage. Avoir les boules.
Ouais, c'est ça.
Rouge, avoir la rage, voilà, expression qui vient du mot arabe sem et qui signifie venin. Et ce matin, on a vraiment le seum, la rage, en lisant la une de Libération. Six mois déjà qu'un otage français est retenu au Sahel. Olivier Dubois, c'est son nom. 6 mois de trop, titre Libé. Et pour briser le silence, des banderoles avec le visage d'Olivier Dubois seront déployées aujourd'hui dans de nombreuses villes de France. Et puis il y en a d'autres qui ont le seum ce matin pour d'autres raisons moins douloureuses. Ce sont les amateurs de vélos électriques. Pénurie mondiale de pièces détachées. Résultat, les livraisons de vélos électriques se font attendre en mois, voire en années, nous dit aujourd'hui en France le Parisien à sa une. Voilà donc pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
Et je vous parle d'un super-héros de la gendarmerie ce matin, décoré à Angoulême, en Charente, de la médaille de défense nationale, une distinction attribuée aux militaires pour service particulièrement honorable rendu pour la défense de la France. Autant vous dire que le moment était important, c'est-à-dire dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Ce super-héros a, je cite, un flair phénoménal, une bonne mâchoire, un sens du devoir, un fin limier et un pelage à poils longs aussi. Voilà, il s'appelle In Excess, c'est un berger belge malinois âgé de 7 ans et il a réalisé depuis 2016, depuis le début de ses services, de nombreux sauvetages de personnes disparues. Grâce à un chausson, In Excess a retrouvé un homme de 85 ans atteint de la maladie d'Alzheimer qui avait quitté son EHPAD en fin d'après-midi. Il a été retrouvé tard dans la nuit, blessé mais vivant. C'est lui aussi qui a permis le retour chez elle d'une jeune femme handicapée. Elle s'était volatilisée en plein festival de la BD. Voilà, à l'aide d'une écharpe, d'un bonnet, In Excess met son maître sur la piste lorsqu'il s'agit d'adultes. Oui, sa faiblesse, ce sont les enfants disparus. Leur odeur est moins marquée que celle des adultes. In Excess est un excellent limier, mais aussi un chien d'attaque qui ne lâche jamais. Il est d'ailleurs si bien dressé qu'il ne porte jamais de muselière et il répond dans la seconde aux sommations de la gendarmerie. Avec sa médaille accrochée à son harnais, In Excess n'est pas le seul à être distingué. C'est toute la caserne qui est récompensée et valorisée. Le Malinois a encore 2 ans de carrière devant lui. Il arrêtera en même temps que son maître qui en profitera pour prendre sa retraite.
I need you tonight, 'cause I'm not sleeping.
Parce qu'il s'appelle In Excess pour le groupe australien.
Ah, bah, c'est donc ça, oui. On n'avait pas compris.
Ça s'écrit pareil. Un Malinois décoré pour son travail exceptionnel au sein de la gendarmerie d'Angoulême. C'est dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Merci Omblin. Martin, vous revenez ce matin sur l'incroyable, la mystérieuse histoire du tueur du Zodiac.
Oui, c'est la fin d'une des plus grandes traques criminelles de l'histoire des États-Unis. Un groupe d'experts américains dit avoir identifié donc le Zodiac. Le Zodiac, si ça ne vous dit rien, c'était ça.
Ça vous arrive souvent d'aider des gens en pleine nuit ?
Quand j'en ai fini avec eux, ils n'ont plus besoin d'aide.
Alors ça, c'est le film de David Fincher, ouais, exactement sorti en 2007. Mais le Zodiac, c'est avant tout un vrai tueur en série. Il sévit au tournant des années 60-70 en Californie. Officiellement, il a fait 5 victimes. Enfin, ça, c'est ce que dit la police. Mais selon sa légende, il y en aurait beaucoup plus, jusqu'à 37. Le Zodiac insigne ses crimes en envoyant des cryptogrammes mystérieux aux policiers et aux rédactions, accompagné de sa signature devenue célèbre, une croix encerclée, une sorte de cible. Alors, près de 50 ans après ses meurtres, personne n'a jamais été inquiété. Et le Zodiac est devenu l'un des des cold cases les plus célèbres de l'autre côté de l'Atlantique.
Alors, cold case, Martin, mais peut-être plus pour longtemps.
Oui, parce que ce groupe d'experts, The Case Breakers, c'est leur nom, a annoncé avoir résolu le mystère. Alors, The Case Breakers, c'est une quarantaine de membres, des journalistes, des anciens policiers du FBI. Et d'après eux, le Zodiac serait un ancien militaire venant de la Sierra, à l'est de Los Angeles. Il serait mort il y a 3 ans et il aurait commis un premier crime dès 1966 à Riverside, toujours en Californie. Ce qui aurait trahi notre homme, c'est un portrait robot. On y voit un Zodiac avec des cicatrices sur le front, exactement comme ce militaire. Autre argument des Case Breakers, hein, le nom de leur suspect apparaît sous forme d'anagramme dans plusieurs lettres du Zodiac. Des découvertes qui ont immédiatement été reprises par tous les tabloïds américains. Mais pas de quoi clore l'affaire pour autant, hein, selon la police. Le FBI a publié un communiqué hier. Nous n'avons aucune nouvelle information à partager pour le moment, écrivent-ils. Pas de nouveau test ADN, donc, qui aurait permis de faire matcher les deux identités. Le Zodiac n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Des experts disent avoir identifié le tueur du Zodiac, c'est à lire sur le site de West France.
Passionnant. Les Case Breakers n'ont pas mis fin, finalement, au mystère. Ça continue. Merci, Martin. Pour ma part, j'ai choisi de vous parler d'Étienne et d'Olivier. Étienne avait 81 ans. Il était l'homme le plus respecté des médias, peut-on lire ce matin dans le Figaro. Olivier, lui, a 47 ans, il est retenu en otage au Sahel depuis 6 mois. 6 mois de silence, d'absence, de manque, 6 mois de trop, écrit Libération. Étienne Moujotte et Olivier Dubois. Deux journalistes, l'inconnu de tous, l'autre oublié de tous, ou presque. Le premier a été le grand artisan du succès de TF1 dans les années 90 et le directeur de l'Info sur Europe 1 de 74 à 81.
Moi, quand j'ai pris la tête de la direction de la formation en 74, on voulait changer un certain nombre de choses. Et j'ai dit, il y a une chose qu'on ne changera pas, c'est le carillon d'Europe 1.
Et il n'y aura pas de carillon aujourd'hui en France, mais pour briser le silence, une mobilisation en revanche pour Olivier Dubois. 6 mois donc que le journaliste de Libé, du Point, de Jeune Afrique a été enlevé au Mali. Les djihadistes retiennent ce père de deux enfants de 5 et 13 ans dans le désert malien. 13 grandes villes françaises vont donc déployer une banderole de soutien sur leur mairie aujourd'hui à l'initiative de Reporters sans frontières. Olivier Dubois et Étienne Moujotte, deux trajectoires, deux destins différents, mais une même ancienne que Didier François, ancien grand reporter de Europe 1 et ancien otage lui-même, répète ce matin dans Libération, il reste essentiel que des reporters continuent d'aller sur les théâtres des conflits. Le risque ne doit pas nous faire renoncer à notre devoir d'informer.
Merci beaucoup Sébastien. On referme le pressing, en tout cas aujourd'hui. Et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche, Sébastien Guyot.
Et à 5h19 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce vendredi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Dernier adieu au boss à Marseille avec les obsèques de Bernard Tapie ce matin à 11h à la cathédrale de la Major. L'inhumation se déroulera ensuite au cimetière de Mazargues. Hier, le stade Vélodrome a accueilli un hommage populaire sous les yeux de 4000 supporters. La disparition d'un homme de médias hier, Étienne Moujotte, ancien directeur de l'information d'Europe 1 et ex-numéro 2 de TF1, a succombé à un cancer à 81 ans. Quand les lois canoniques se heurtent aux lois de la République, le président de la Conférence des évêques de France, convoqué mardi prochain par Gérald Darmanin, il s'expliquera sur ses propos polémiques sur le secret de la confession. Et puis les Bleus se sont et nous ont fait très peur hier soir en demi-finale de la Ligue des Nations face à la Belgique. Menés 2-0 en première mi-temps, ils ont signé une magnifique victoire 3-2 et se qualifient pour la finale face à l'Espagne dimanche soir.
Il est 5h20, très bon réveil à tous ce vendredi matin. Et à présent, ce sont les initiatives en France. On met en lumière chaque jour celles et ceux qui s'engagent. Ce matin, Sébastien, c'est à une du Parisien aujourd'hui en France, la pénurie des vélos électriques. Eh bien, si vous y êtes confronté, nous avons pour vous une solution.
Bonjour Jean-Pascal Plumier.
Bonjour.
Fondateur d'Ozo, une société qui propose de transformer son vélo en vélo électrique. Vous êtes un des pionniers en la matière avec Cycloboost. Et ça nous intéresse ce matin sur Europe 1 de vous avoir avec nous, car on le sait, hein, il y a pénurie sur les VAE, les vélos à assistance électrique, du moins sur les pièces souvent assemblées en Chine. Explosion des demandes, tension mondiale d'approvisionnement. Dites-nous Jean-Pascal Plumier, vous proposez donc une alternative, électrifier un vélo classique en vélo électrique, comment ça marche ?
Disons, la stratégie de départ était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rouler en vélo électrique, mais avec une certaine conscience écologique, en ayant une empreinte carbone réduite. Donc du coup, ce principe de se dire qu'on avait déjà pléthore de vélos traditionnels sur notre territoire national, et de venir y greffer un moteur et une batterie nous semblait quand même beaucoup plus vertueux et répondait exactement aux mêmes besoins que l'achat d'un vélo électrique complet qui, malheureusement, comme vous l'avez dit, pour 95% des vélos électriques, ils sont complètement fabriqués à l'autre bout de la planète.
Alors, vous proposez donc des kits, hein, on peut installer soi-même ces kits. Si on n'est pas bricoleur, c'est vous qui le faites, combien ça coûte ?
Nous, on a développé au fil du temps plusieurs types de motorisation qui nous permettent à l'heure actuelle d'électrifier 99% des vélos.
Donc on a quel que soit le vélo, hormis 1%, ouais, on peut l'électrifier sans aucun problème.
Voilà, 99%, le 1% restant étant les vélos exotiques, c'est-à-dire des vélos par exemple américains avec des rétropédalages ou des vélos à transmission courroie, mais sinon tous les vélos traditionnels, on peut les équiper avec nos solutions.
Alors donc, je vous amène mon vélo, comment vous faites avec les kits et combien ça coûte ?
Alors le budget moyen, c'est entre 800 et 1000 euros.
D'accord, sachant qu'un budget moyen, dit-on, pour un vélo électrique, c'est 2000 euros si on veut un bon vélo électrique.
Voilà, tout à fait, donc ça fait quand même une belle économie à la clé, sachant que de plus en plus, les grandes agglomérations subventionnent aussi l'achat d'un kit de conversion pour vélo, hein, au même titre que l'achat d'un vélo électrique clé en main. Et donc, du coup, pour la facilité d'installation, bon, nous, on a tout simplifié en amont, donc on estime à l'heure actuelle que c'est quand même plus facile que d'installer ou de monter un meuble en kit. Mais si, par contre, on ne
sent pas de le faire,
tout,
on fait appel à vous.
Alors, on fait appel à nous, on fait surtout appel à notre réseau d'installateurs, parce que donc nous, au fil du temps, on a développé un réseau. Là, actuellement, on a à peu près 130 partenaires installateurs à travers la France. Certains se déplacent à domicile et font l'installation du kit chez vous, et d'autres prennent rendez-vous avec vous pour faire l'installation dans leur atelier.
Alors, vous me dites que 99% des vélos sont adaptables et électrifiables. Qu'est-ce que vous répondez toutefois à la mise en garde de l'Union Sport et Cycles, hein, qui met en garde contre cette électrification ? Je la cite, « Les cycles classiques ne sont jamais certifiés par les fabricants pour être convertis en vélo électrique. »
Alors, les cycles classiques ne sont pas certifiés par les fabricants. Ça, oui, hein, ça c'est normal. Le fabricant qui vend un vélo traditionnel sans moteur, dès lors qu'on va venir faire une modification majeure comme installer un moteur sur ce vélo-là, bah, le fabricant va vous dire « moi, je garantis plus le vélo hein. ». Bon, ça, c'est normal. Par contre, ensuite, en termes de résistance des matériaux, il faut savoir que tous les vélos, que ce soit des vélos électriques ou pas, sont fabriqués dans les mêmes matériaux, souvent de l'acier ou de l'aluminium 60-61. Donc on est exactement sur les mêmes contraintes mécaniques. L'amalgame qui est fait hein, sur les kits d'électrification, souvent, c'est que vous voyez sur Internet des kits très puissants, des kits qui sont pas du tout homologués pour rouler sur route. Mais là, nous, on parle, pour ce qui nous concerne, de kits 250 watts. Les contraintes mécaniques de ces kits 250 watts sur un cadre de vélo, comme sur les performances du système de freinage, parce que vous savez que la législation européenne impose une assistance maximum jusqu'à 25 km/h, donc les freins des vélos traditionnels sont quand même prévus pour arrêter un vélo à 25 km/h. Hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. C'est pour ça notamment que bah, les kits ont quand même très évolué ces dernières années. Ils sont de plus en plus plébiscités.
Vous l'avez l'autonomie de la batterie, d'un mot ?
Donc l'autonomie, ça va de 40 km jusqu'à 200 km parce qu'on fabrique nos batteries en France.
Alors il y aura quand même un écueil. Hein. J'imagine que c'est toujours une assistance moteur-roue et pas au pédalier qui est progressive, qui est finalement la seule assistante valable, non ?
Alors pas du tout. Nous on propose les trois technologies qui existent dans le monde du vélo électrique, c'est-à-dire qu'on propose des moteurs roue arrière, on propose des moteurs pédaliers et on propose des moteurs roue avant.
Il y en a pour tous les goûts, c'est ce qu'on retiendra. Merci Jean-Pascal Plumier, fondateur d'Ozo, donc d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas avoir de vélo électrique et qui veulent transformer leur vélo en vélo électrique. C'est plus simple et moins cher apparemment. Merci.
Merci.
Merci. Bonne journée.
Europe Matin, Sébastien Guyot et Omblin Roche.
Il est 5h28, c'est vendredi, c'est Europe 1. On espère que vous allez bien dans la suite du programme, Omblin.
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah. C'est du Michel Audiard et c'est Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner. La connerie s'offre une grande semaine de conférences. Les constellations de la connerie sont au programme de la 13e édition de la semaine de la pop philosophie à Marseille. ce programme. Hein. Ça commence lundi en présence de philosophes, universitaires, historiens. La connerie, ses origines, ses conséquences, son concept, son analyse. On sera avec le fondateur et directeur artistique de la semaine de la pop philosophie.
Et puis juste après, de la musique dans la prescription culture avec Stéphanie Loire. Vous connaissez Anissa?
Bah, alors moi je vais tricher parce que je le vois écrit.
Oui, c'est David Bowie. David
ah Bowie. Oui, bien
titre
sûr.
Inédit. Ouais, c'est un titre inédit qui vient d'être publié et qui annonce la sortie en début d'année prochaine d'un nouvel album posthume.
Il n'y a que de bonnes nouvelles en ce vendredi. Là.
Ah oui, n'est-ce pas? Alors, vous ne pouvez pas être et David Bowie et Gérard Lenormand, Anissa Didi.
Figurez-vous, je m'insurge aussi.
Ah oui, tout à fait.
Non, mais parce qu'elle ne reconnaissait pas, c'est pour ça. Mais c'est le titre inédit.
Non, c'est le titre inédit.
Donc, les bonnes nouvelles, vous en avez d'autres, je suis sûre, ma chère Anissa.
J'en ai plein des bonnes nouvelles dans ma besace. Je vous annonce une journée très belle, un week-end radieux qui arrive. Et alors, pour une fois, tout le monde sera logé à la même enseigne ce week-end. Alors, comme d'habitude, en automne, la journée va commencer avec quelques nuages bas, des petits brouillards, prudence sur la route, hein, sur le centre Val-de-Loire jusqu'en Auvergne, Limousin, Pays Basque, dans les Hauts-de-France, la région parisienne, on a pas mal de brouillards ce matin, le ciel breton est aussi nuageux, il y a pas mal de nuages le long des côtes de la Manche, mais je vous rassure, cet après-midi, ce sont les éclaircies qui prennent le dessus. Comme hier, cet après-midi, malgré le beau soleil entre l'Auvergne et la Lorraine, on a encore quelques nuages qui s'accrochent. On a un léger risque d'averse sur la Haute-Corse, mais partout ailleurs, c'est vraiment très sympa. 4 à 7 degrés, couvrez-vous ce matin, il fait frais. 13 à 15 sous les nuages bretons. Et puis cet après-midi, on aura 16 à 20 degrés en général sur tout le pays. 21 au bord de l'Atlantique et de la Méditerranée et jusqu'à 26 sur la Côte d'Azur.
Avec le soleil dans la voix d'Anissa Dadi. Merci beaucoup. Très bon réveil à toutes et tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe Matin. Omblin Roche, Sébastien Guyot.
De la joie et peut-être du soulagement pour les supporters français après la victoire des Bleus hier soir sur la Belgique 3-2. Match renversant des champions du monde qui étaient menés 2-0 à la mi-temps. L'Église est-elle au-dessus des lois? Non, répond le gouvernement. Le président de la Conférence des évêques de France, invité à s'expliquer au ministère de l'Intérieur mardi prochain après des propos polémiques, Mgr Moulin Beaufort juge le secret de la confession plus fort que la République. Le procès des attentats du 13 novembre, les rescapés du Bataclan témoignent à la barre, des corps brisés par les blessures et des vies bouleversées. Et puis Marseille dit adieu à Bernard Tapie, l'ex-président de l'OM, sera enterré ce matin au cimetière Mazargues. 5h30, c'est le journal de Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Formidable, c'est ce que l'on s'est dit en éteignant la télé hier soir. L'équipe de France a été formidable de courage et de volonté pour s'imposer 3-2 face à la Belgique alors qu'elle était menée 2-0 à la mi-temps. Un match fou et incroyable entre les deux meilleurs frères ennemis du football. Côté supporters, on est évidemment passé par toutes les émotions chez les Français comme chez les Belges. Maximilien Carlier les a suivis. Reportage.
Explosion de joie sur le but de Théo Hernandez. Les Français font la fête et chantent en montrant leur maillot de l'équipe de France. Pourtant, à la mi-temps, l'ambiance était bien différente. À 2-0 pour la Belgique, Carole et Denis, cornes de Viking sur la tête, commençaient déjà à fanfaronner.
Et on ira quand même encore boire un verre avec les Français, hein, t'inquiète. Hein.
La revanche, tu rigoles quoi, je la voulais la revanche. Hein. Parce qu'on pourrait nous, à notre tour, faire et 1, et 2, et 3. Et...
La suite, on la connaît. Remontada des Bleus, au coup de sifflet final, la Marseillaise.
C'est encore plus beau que 2018, plus beau.
Eh, hey, le Belge, pas trop rancunier. Bon, je te fais la bise, c'est un beau match.
On se quitte en bon terme, même si on sent chez les supporters des Diables Rouges une pointe de frustration.
Quand les Français y gagnent, t'en entends parler pendant très très longtemps.
Au Bizet, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et la France affrontera donc l'Espagne dimanche soir en finale de la Ligue des Nations. Le match pour la troisième place opposera donc les Belges aux Italiens.
Une finale qui sera à suivre sur Europe 1. L'Église est-elle au-dessus des lois de la République? La petite phrase du président de la Conférence des évêques de France fait beaucoup de bruit.
Et pour Mgr Moulin Beaufort, on ne peut pas trahir le secret de la confession, quand bien même le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église recommande de le faire en cas d'abus sexuel. L'évêque de Reims s'est invité à s'expliquer mardi au ministère de l'Intérieur. Cette question du secret divise jusqu'à l'épiscopat. Le président de la commission d'enquête, Jean-Marc Sauvé, en convenait lui-même lors de la présentation de son rapport.
La commission s'est penchée sur le secret de la confession. Elle en a très longuement débattu. Elle parvient à la conclusion que le secret de la confession ne peut pas être opposé à l'obligation de dénoncer les atteintes graves sur des mineurs ou des personnes vulnérables, à la fois conformément au droit de la République, le secret de la confession étant un secret professionnel au sens de la loi française, et peut-être aussi au regard d'une autre obligation, qui est une obligation de droit naturel, de protection de la vie et de la dignité des personnes. Nous mesurons bien la sensibilité de cette recommandation, mais en conscience et en responsabilité, nous la faisons.
Jean-Marc Sauvé, le président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, propos recueillis par Virginie Riva.
C'est le fleuron des grandes écoles. Le parquet d'Evry ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle à Centrale Supélec.
C'est la directrice de cette prestigieuse école d'ingénieurs qui a elle-même alerté la justice après une enquête menée en interne. Elle révèle une centaine de cas de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol commis lors de l'année scolaire. Dans 9 cas sur 10, l'auteur est un étudiant. L'agression a été commise dans un cadre associatif ou au sein de la résidence universitaire.
L'Irlande dit finalement oui à l'impôt mondial sur les sociétés.
Le ministre des Finances annonce rejoindre la liste des pays de l'OCDE favorable à une évolution de la fiscalité des entreprises. Dublin accepte de faire passer son taux d'imposition de 12,5 à 15%. L'accord sur la fiscalité mondiale est toujours en cours de négociation, mais le changement de cap irlandais pourrait accélérer les discussions.
Le procès des attentats du 13 novembre cette semaine est consacré au témoignage des rescapés du Bataclan.
La cour d'assises spéciale de Paris entend depuis le début de la semaine ceux que les chirurgiens appellent les gueules cassées, expression qui fait référence aux blessés de la Première Guerre mondiale. Les témoins sont venus raconter l'horreur de l'attaque ce soir du 13 novembre et leur difficile reconstruction. Des corps mutilés après avoir reçu des balles de guerre, comme celui de Gaël, venu raconter son calvaire à la barre. Compte rendu d'audience, Gladys Lafitte.
Lorsqu'elle enlève son masque à la barre, on découvre la gueule cassée de Gaël, comme lui dit un jour un chirurgien. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle réalise « J'étais victime de guerre entre Bastille et République ». Ce 13 novembre, elle est atteinte par une balle au visage d'abord. Elle s'en rend compte car, avec ma main droite, je touchais et elle s'enfonçait dans ma bouche pour retirer les dents que j'avalais. Deuxième choc, sur son ventre, un morceau blanc et rouge, c'est l'os de son bras après le passage d'une deuxième balle. Ce n'est que parce qu'elle entend en hallucination son fils qu'elle trouve la force de sortir du Bataclan. Son visage qui pend marque les policiers qu'elle croise. Depuis 6 ans, la reconstruction est sans fin, dit-elle. 40 opérations, d'autres à venir, à vie. Gaëlle se sent comme un patchwork réparé de partout. Aujourd'hui, elle n'a pas de haine, mais des rêves simples. Croquer dans une pomme sans risque, boire mon café sans que ça dégouline à côté, embrasser sans avoir peur de dégoûter. Derrière Gaëlle en pleurs, la photo de Mathieu, son compagnon, qui lui n'a pas survécu.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
5h36, la suite du journal de Christophe Lamar. Et Marseille qui s'apprête à dire adieu à Bernard Tapie.
Ses obsèques sont prévues à 11h ce matin en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille. Bernard Tapie sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues, la ville qui n'en finit pas de rendre hommage à l'ancien président de l'OM. Hier, plusieurs milliers de fans sont venus au stade Vélodrome pour se recueillir et adresser un dernier adieu au boss, comme il l'appelait. Frédéric Michel leur a tendu son micro.
C'est son dernier match aujourd'hui au Vélodrome. C'était magnifique.
André avec Jump là, l'arrivée du cercueil avec les supporters qui suivent. Un hommage mérité, digne, émouvant. Le recueillement aussi et une pensée pour sa famille.
Nous, supporters, jeunes, vieux, riches, pauvres, nous voulions te dire merci de nous avoir permis de devenir ce que nous sommes.
J'ai envie de dire que c'était presque parfait. Des jolis textes, les groupes de supporters étaient là pour représenter. La famille qui était là en plus, donc ça c'est formidable.
C'est à la hauteur de l'homme. Rarement je pleure, mais là j'ai failli verser quelques larmes. Le fait de voir le corps sur la pelouse.
Il a choisi d'être inhumé à Marseille. Il y aura vraiment beaucoup de monde.
Il n'y a pas le choix du monde. Les Marseillais et non Marseillais.
Reportage signé Frédéric Michel. Et puis la mort, on a appris hier soir la mort d'Étienne Moujotte, le journaliste a dirigé les plus grandes rédactions d'Europe 1 au Figaro jusqu'à TF1 bien sûr. Véritable homme de médias, il a influencé plusieurs générations de journalistes. Étienne Moujotte avait 81 ans.
C'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe, on passe aux courses avec les pronostics du Quintet de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour Sébastien, c'est en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes que se disputera ce quintet. Et parmi les 16 partants tous bien connus des turfistes qui en découdront sur la distance de 2700 mètres, j'ai choisi deux trotteurs étrangers, le Suédois Chaco Jazz, le numéro 7, et l'Italien 007 Gar, le numéro 9, qui restent tous les deux sur une série d'excellentes performances, et plus particulièrement à Vincennes, sur le parcours qui nous intéresse. Et comme ces deux-là n'ont certainement pas encore les gains en rapport avec leurs moyens, c'est assurément deux points d'appui solides. On leur opposera les numéros 16, Écho de Champlecy, idéalement engagé et jamais plus loin que quatrième lors de ses quatre dernières sorties, 1. Flya Kaluma, la moins riche, mais certainement pas la moins douée, et 2. Marcello Wib, absent de toute compétition depuis le 28 juillet, mais je sais qu'il est déjà très prêt le matin à l'entraînement. Enfin, les numéros 10, Drop des Duriers, 5, Fly Speed et 12, Blackjack la Nuit compléteront ma sélection. Mon pronostic, 7, 9, 16, As, 2, 10, 5 et 12.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain matin avec Thierry Dagiral. Il est 5h39, bon vendredi et à tout de suite avec un voyage philosophique au cœur de la connerie et de ses constellations.
Omblin Roche et Sébastien Guyot. Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, il est 5h41 sur Europe 1. On pourrait y voir une plaisanterie, peut-être une provocation, un sujet susceptible de nous faire sourire et pourtant c'est très sérieux. La connerie sera dès lundi au centre de la semaine de la pop philosophie à Marseille. Elle sera abordée sous différents angles lors d'une quinzaine de conférences et selon le philosophe Maxime Rovert qui sera présent à Marseille, la connerie est aussi difficile à définir qu'à éviter. C'est ce que nous allons voir avec vous et avec votre invité, Omblin.
Bonjour Jacques Serrano.
Bonjour.
Vous êtes le directeur artistique de la semaine de la pop philosophie à Marseille. Vous en êtes même le fondateur, le concepteur. Maintenant, en 2021, dans notre société, il allait de soi que cette 13e édition aborde le thème des constellations de la connerie. Le moment est particulièrement bien choisi, selon vous ?
Il me semble qu'à toutes les époques, on a considéré que c'était l'époque la plus conne de l'histoire. Et aujourd'hui, on peut évidemment trouver des tas de références et de points d'appui pour défendre cette idée. Peut-être la différence, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, par exemple, elle est plus visible. C'est parce qu'elle est plus visible qu'on pense qu'elle est plus présente. Voilà.
Y a-t-il une différence entre la connerie et la bêtise ou simplement l'utilisation d'un mot argot a plus d'impact ?
Dans l'histoire des idées, il y a de nombreux philosophes, écrivains qui ont travaillé sur la bêtise. Et je pense que c'est une histoire de génération.
On la trouve partout, elle n'épargne personne. Est-ce qu'elle est forcément nocive, Jacques Serrano, la connerie ?
Ah oui, moi je pense qu'elle est... Les connards sont des gens très nocifs. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes victimes de la connerie, mais que nous sommes aussi quelquefois les auteurs.
Est-ce qu'on minimise son impact aussi sur notre santé mentale ?
Le premier soir, il y a un psychiatre neuroscientifique qui intervient au Théâtre à Crier, le 11, qui abordera cette question. Et je lui laisse la parole, puisqu'il est spécialiste de ces questions.
Donc on parle de nocivité, on parle de santé mentale, mais est-ce qu'on peut en rire aussi ?
J'espère que durant la semaine, l'humour sera présent. J'y compte bien d'ailleurs. Une des signatures de ce festival, c'est d'aborder des choses graves avec légèreté, souvent.
Jacques Serrano, est-ce que la connerie est le contraire de l'intelligence ? Peut-on être quelqu'un de brillant et faire preuve de connerie ?
Alors absolument, la connerie n'est pas le contraire de l'intelligence. Il est vrai qu'il y a des gens très intelligents qui se montrent cons, quelquefois d'ailleurs par stratégie, quelquefois par prétention. Donc on peut être intelligent et se montrer con.
Et puis comme le chantait Brassens, il y a des cons innocents aussi. Faut pas les oublier,
cons,
ceux-là.
Et il y a des cons innocents, mais je dirais qu'on n'a plus d'indulgence.
Alors je me demande quand même, qui sommes-nous pour juger de la connerie de l'autre ? Parce qu'on est toujours le con de quelqu'un, après tout.
Absolument. Absolument, c'est quelque chose qu'il faut bien souligner et je crois que durant cette semaine, il n'y aura pas de doute là-dessus que et nos invités et moi-même et nous annoncerons qu'on n'est pas au-dessus de la mêlée pour juger les autres de cons. On est aussi très souvent très cons.
Alors vous avez évoqué les réseaux sociaux tout à l'heure qui rend la connerie plus visible. Sans doute est-ce un catalyseur aussi. Et les médias alors, puisque nous sommes sur Europe 1. les médias. Oui. C'est une source de conneries, c'est un vecteur.
Oui, alors les médias ne sont pas épargnés du tout. Hein. Le mardi 12, toujours à la Criée, il y a une rencontre en partenariat avec le magazine Marianne qui s'intitule « Média conneries ».
Oui.
Et à ce moment-là, je pense que, enfin, je suis même sûr que la connerie des médias sera soulignée dans plusieurs types de situations.
Mais justement, comme les réseaux sociaux, est-ce que ça rend la connerie, la bêtise, l'imbécilité des gens plus visible, les médias ? Est-ce que maintenant on la voit alors qu'elle a toujours existé et qu'elle était peut-être plus cachée ? Et désormais, avec la multiplication des chaînes, est-ce que ça rend, ou des programmes d'ailleurs, est-ce que ça rend la connerie plus visible ?
Oui, moi je suis intimement convaincu que ça la rend plus visible. Elle est encore une fois aussi présente que dans les années 70 ou dans les années 30, mais elle s'avère plus visible. Ça, c'est incontestable. Et je pense que la presse, dans les années 30, dans les années 50, dans les années 70, ont pu écrire de grandes conneries aussi.
Quand on est con, hein, encore du Brassens, quelle que soit l'époque,
oui.
Finalement.
Oui, absolument.
Et la connerie est-elle irréversible, alors ? Est-ce qu'on peut avoir une note d'espoir et contrer Brassens ?
Alors, voilà. Alors, il y aura des intervenants qui pointent des solutions possibles pour y remédier, pour changer les choses. Moi, je suis intimement convaincu que les choses, on n'a aucun effet, aucune action sur cet état.
Merci beaucoup, Jacques Serrano. Vous êtes le directeur artistique de la Semaine de la Pop Philosophie qui mettra la connerie à l'honneur toute la semaine prochaine à Marseille. Une approche philosophique, politique, historique et littéraire, hein, de la connerie. Merci beaucoup.
Eh bien, je vous remercie.
Bonne journée.
Au revoir.
Bon vendredi matin sur Europe 1. En musique, à présent, vous évoquiez Omblin, Georges Brassens. Quand on est con, on est con. Mais on va parler d'autres artistes avec Stéphanie Loire maintenant. Bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous. Bonjour Omblin. Bonjour Sébastien.
Et ce matin, vous nous présentez deux titres inédits de deux grandes stars. On commence avec David Bowie.
Exactement, un album posthume de David Bowie, nommé The Width of a Circle, était déjà sorti le 28 mai dernier. C'était à l'occasion des 50 ans du mythique The Man Who Sold the World. On en écoute un extrait juste pour le plaisir. And made my way back home. I searched for form and land. David Bowie nous quittait le 10 janvier 2016, mais le 7 janvier prochain, nous allons pouvoir découvrir de nouveaux titres inédits du chanteur dans un album inédit lui aussi intitulé Toy. L'album a été enregistré en 2000 avec son ami et coproducteur Marc Plassy. Ce sont des enregistrements qui ont eu lieu juste après son 21e album studio Hours, dans lequel on pouvait notamment entendre ce titre-là. Dans cet album posthume, David Bowie s'est amusé avec ses musiciens à enregistrer de nouvelles versions de chansons qu'il avait gravées entre 1964 et 1971, l'époque des premiers groupes de Bowie dans les années, parce qu'avant de se lancer en solo et de rencontrer le succès, David Bowie a été dans une flopée de groupes rock, folk, blues, les Conrads, les King Bees, les Manish Boys, The Lower Third. Toy, l'album dont je vous parle, il n'a jamais été publié à cause d'une brouille avec Virgin, son label de l'époque. En 2011, les enregistrements sont apparus comme par enchantement sur le net. Et cette fois, ça y est, en 2021, suite à un accord entre la major, compagnie Warner et les héritiers de David Bowie, l'album peut enfin voir le jour. Et c'est une très bonne nouvelle. Alors pour le moment, il n'y a qu'un titre extrait de cet album inédit qui a été publié. Il s'appelle « You've got an habit of living ». On l'écoute. Alors là, il s'agit du nouvel enregistrement d'une de ses toutes premières chansons avec le groupe The Lower Third, qui était sorti en single en 1965. Et à l'époque, David Bowie se faisait encore appeler David Jones. À l'époque, ça n'a pas été vraiment un succès. Ça, on peut même dire que ça a été un échec commercial, comme toutes les tentatives du jeune David avant la révélation avec ce titre-là, Space Oddity, en 1969. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear.
Que ça fait du bien d'écouter du David Bowie. Stéphanie, vous nous avez promis une nouvelle et une autre nouveauté. De quel artiste s'agit-il ?
Eh bien, il s'agit de Kylie Minogue qui va sortir le 12 novembre prochain une réédition de son album Disco qui nous a déjà fait onduler seul chez nous pendant le confinement. La chanteuse australienne, eh bien, elle a vu juste avec ce disco. En cette période où danser, c'était plus autorisé, eh bien, l'album a été un véritable succès. Plus de 350 000 albums vendus dans le monde et 170 millions de streams avec notamment ce tube-là. Dans cette réédition, des duos inédits, dont celui avec Years and Years, sur ce titre qui vient tout juste d'être dévoilé. Et alors, dès la première écoute, on a envie de danser en pas de def dessus. Ce single s'appelle A Second to Midnight. Kylie Minogue, en fait, elle est en duo avec Holly Alexander du projet musical Years and Years. Alors, si vous avez 5 minutes devant votre ordinateur entre deux mails et une partie de Candy Crush, allez jeter un œil sur le clip et on voit Kylie Minogue et cet artiste Holly Alexander qui nous donne une très belle leçon de danse. Dans cette réédition, on pourra aussi entendre Kylie Minogue en duo avec Jessie Ware. Et un autre avec la légende du disco, Gloria Gaynor.
Merci Stéphanie Loire. Le nouveau titre de Kylie Minogue s'appelle Second to Midnight. Et concernant l'album posthume de David Bowie, rendez-vous dans les bacs en janvier prochain.
Europe Matin.
Omblin Roche, Sébastien Guyot.
À 5h51 sur Europe 1, le journal permanent avec Alban Le Prince.
Une remontada exceptionnelle en moins de 30 minutes. Les Bleus nous ont fait très peur hier soir contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Menés 2-0 à la première mi-temps, ils ont réussi à battre les Diables Rouges 3-2 et se qualifient pour la finale face à l'Espagne dimanche soir. Bernard Tapie rejoint aujourd'hui sa dernière demeure, le cimetière marseillais de Mazargues. Avant, ses obsèques se dérouleront à la cathédrale de la Major à 11h. La disparition d'un géant des médias. Hier, Étienne Moujotte, ancien directeur de l'information d'Europe 1, ex-numéro 2 de TF1, a succombé à un cancer à 81 ans. Et puis, que se passe-t-il après les cours à Centrale Supélec, prestigieuse école d'ingénieurs? Le parquet d'Evry ouvre une enquête après la révélation dans une étude d'une centaine de faits de harcèlement sexuel, agression sexuelle et même viol sur l'année universitaire.
Europe Matin.
L'actualité s'écrit aussi au plus près de chez vous, dans vos quotidiens régionaux. C'est en France. C'est un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit. Et ce matin, Sébastien, nous partons en Dordogne.
Bonjour Ludovic Ibarz.
Bonjour.
Le 9e art à l'honneur ce matin dans votre journal. Vous êtes journaliste à la Dordogne Libre. Et en une ce matin, le festival de BD de Bassillac et Aubroche en Dordogne. C'est la 32e édition déjà. Elle est qualifiée d'exceptionnelle. Pourquoi ?
Déjà, on attend près d'une cinquantaine d'auteurs. Il y aura une douzaine d'expositions qui seront proposées au public à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. C'est un moment qui était attendu parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là et donc qui a un petit peu brimé les amateurs de BD. Donc là, ils vont pouvoir retrouver ce festival qui a déjà une très belle notoriété sur le département et aussi la région.
Et les invités d'honneur de cette édition, c'est donc Catel et Boquet que vous avez interviewés pour le journal. Couple à la ville et couple de bande dessinée.
Exactement. Alors, Catel et Boquet, ce sont un point d'honneur de mettre la femme en lumière. Donc, ils viendront présenter leur dernier album sur la vie d'Alice Guy, l'une des premières cinéastes françaises. Ils en profiteront aussi pour présenter leurs précédents ouvrages sur Olympe de Gouges, Quai de Montparnasse et Joséphine Baker, qui va entrer en Panthéon et qui est très appréciée en Dordogne du fait de son château des Milandes qui a fait le bonheur des visiteurs de Dordogne.
Et ils l'ont eux-mêmes visité.
Ils l'ont eux-mêmes visité pour s'inspirer un petit peu sur place, pour prendre un petit peu possession de l'âme de Joséphine Baker pour le retransmettre dans leur album.
Et d'ailleurs, ils ont mis à l'honneur Joséphine Baker sur l'affiche du festival. C'est un hasard ?
Exactement.
C'était avant ou après la panthéonisation de Joséphine Baker ?
C'est tout à fait un hasard. Au départ, ils devaient faire Alice Guy. Mais Alice Guy n'ayant aucun lien avec la Dordogne, ils se sont rabattus sur Joséphine Baker, ce qui tombait bien, puisque quelques semaines plus tard, on apprenait qu'elle était panthéonisée. Donc ça tombait plutôt bien.
Et ça sera donc dans un an au Panthéon, en novembre 2021.
Exactement.
Vous le disiez, ce sont également toutes les femmes oubliées de l'histoire qui seront mises à l'honneur durant ce festival, et notamment Alice Guy, qui est peu connue du grand public et pourtant...
Oui, c'est une cinéaste, elle a été une des premières cinéastes de l'histoire, qui a fait un travail formidable, qui a notamment créé un des premiers péplums qui existent. Elle a aussi fait en 1912 un film où le casting est entièrement composé de Noirs américains parce qu'elle s'était installée aux États-Unis. Donc c'est vraiment une iconoclaste dans le monde du cinéma. Et aujourd'hui, on la redécouvre notamment grâce à Martin Scorsese qui s'est intéressé au personnage et on retrouve encore aujourd'hui dans certaines archives certains de ses films.
Alors on imagine que les amateurs de BD vont se précipiter. Pour ceux qui le sont moins, comment leur donner envie de venir ce week-end ?
Eh bien, tout simplement parce que c'est vraiment quelque chose de très sympa à faire, le Festival de la BD de Bastillac, parce que on rencontre des auteurs, et puis on peut aussi trouver quelques petites perles, parce qu'il y a quelques vendeurs de BD anciennes qui sont là, et on peut retrouver un petit peu son âme d'enfant en replongeant dans ses vieux albums. Donc c'est vraiment un endroit très très sympa, et c'est vraiment à découvrir. D'ailleurs, maintenant, ça a dépassé les frontières de la Dordogne, puisque des gens de tous les départements limitrophes, maintenant, viennent sur place. Donc pour rappeler effectivement que l'entrée est à 4 euros, et que le pass sanitaire est obligatoire.
Merci pour toutes ces précision, Ludovic Ibarz. Le festival de la BD de Bastillac et Aubroche en Dordogne. Donc, c'est dès aujourd'hui, tout ce week-end. Et c'est à la une de votre quotidien, la Dordogne libre. Merci à vous et bonne journée.
Bonne journée à vous, au revoir.
Europe Matin, Sébastien Guyot et Omblin Roche.
Bon, réveil sur Europe 1, il est 5h58 et c'est l'heure, Sébastien, de faire le point sur le programme de la prochaine demi-heure.
Avec une ministre qui sera avec nous, Elisabeth Moreno, en charge de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Elle participe aujourd'hui au sommet Afrique-France à Montpellier, un sommet inédit sans aucun chef d'État africain. On lui demandera pourquoi. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
Une chanteuse de jazz suédoise à la voix hors du commun. Lisa Ekdahl a particulièrement suscité l'admiration du public français. Nous serons de retour en 1997 dans 20 minutes.
Mais avant cela, la météo avec Anissa Haddadi. Fraîcheur plus soleil égale automne.
Eh ben c'est ça. Et aujourd'hui, nous allons avoir une belle journée d'automne, une très belle journée d'automne. Alors avant l'arrivée du soleil cet après-midi, c'est vrai que nous avons ce matin un ciel assez chargé avec des nuages bas, pas mal de brume et des brouillards. Alors soyez prudents si vous nous écoutez, que vous êtes déjà sur la route entre la Bretagne et le Cotentin, sur les Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la région parisienne, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Auvergne, sur le Pays Basque également. Voilà, le ciel est un petit peu chargé ce matin et peut-être quelques difficultés de visibilité. Dans l'après-midi, le soleil s'impose quasiment partout. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a quelques nuages qui s'accrochent. Et puis sur la Haute-Corse, là aussi, peut-être quelques petites gouttes cet après-midi. Les températures, couvrez-vous. On va gratter les pare-brises du côté d'Aurillac avec 2 degrés, 4 à Guéret, 6 à Mont-de-Marsan, 10 à Paris et 15 à Saint-Brieuc. Ce sont les températures relevées à 5 heures. Mmh. Et puis cet après-midi, 14 pour Saint-Étienne, 17 à Clermont-Ferrand, 19 à Paris, 21 pour Brest et Bordeaux et 26 à Saint-Tropez. C'est la maximale.
Oh, ça fait rêver. Merci Anissa Haddadi. Bienvenue à toutes et tous. Il est précisément 6h. Très bon réveil.
Europe Matin.
Omblin Roche, Sébastien Guyot.
Il fallait prendre un petit moment et venir. C'est Bernard Tapie, tout simplement, Nana. Il fallait lui dire un dernier au revoir sur sa pelouse.
L'hommage des Marseillais au boss de l'OM. Dernier passage hier par le stade Vélodrome, sous les applaudissements de 4000 supporters. Bernard Tapie sera inhumé aujourd'hui dans la cité phocéenne. Vous devez prendre rendez-vous chez votre ophtalmo. Bonne nouvelle, les délais s'améliorent. Comptez désormais un mois d'attente, deux fois moins qu'en 2017. Révélation sur Europe 1 du syndicat de la profession. Et puis un lac d'eau liquide sur Mars, confirmation du robot de la NASA. 8 mois après son arrivée sur la planète rouge, le rover Persévérance livre ses premiers résultats.
Europe 1.
Le journal de 6h, c'est avec Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. À jamais, le premier et pour l'éternité, les obsèques de Bernard Tapie, le boss de l'OM aujourd'hui à Marseille. Cérémonie à 11h à la Major. Un cortège de supporters partira du Vieux-Port ce matin pour rejoindre la cathédrale.
En bleu et blanc, ils étaient plus de 4000 hier au stade Vélodrome avec au centre de la pelouse le cercueil de Bernard Tapie. Un hommage sur la musique de Jump, l'hymne de l'OM bien sûr, recouvert par les applaudissements des supporters comme Laetitia et Enzo venus déposer quelques roses.
C'était joli, émouvant, là on entend la chanson, je ne sais pas si vous l'entendez.
Je devais de venir lui rendre un dernier hommage après tout ce qu'il a apporté au club. C'est lui qui nous a donné la grandeur qu'on a aujourd'hui, c'est lui qui nous a donné l'étoile, c'est lui, voilà. C'est grâce à lui que maintenant on a un grand nom dans tout le monde, dans toute l'Europe. On se devait de venir lui rendre un dernier hommage.
qu'on travaille, qu'on soit à l'école, voilà, il fallait que prendre un petit moment et venir. Écrire sur le livre d'or, rentrer le voir, même 30 secondes, il fallait. C'est Bernard Tapie, tout simplement, Nanar. Et voilà, quoi, c'est rien que cette chanson, quoi. Rien que ça, c'est émouvant. Et de voir le cercueil arriver, ça l'est encore plus. Voilà, je vous en parle, j'en ai les larmes aux yeux, quoi. Il fallait lui dire un dernier au revoir sur sa pelouse.
Témoignage de supporters au micro de Frédéric Michel qui nous fera vivre la cérémonie d'hommage en direct dans la matinale d'Europe 1. Et lui faisait partie de la famille Europe 1. Étienne Moujotte, ancien directeur de l'information de notre station, est mort hier à 81 ans. Ancien numéro 2 de TF1, aussi patron de presse. Il a été emporté par un cancer.
Au procès du Bugalet de Braise, l'hypothèse de l'accident avec un sous-marin se précise.
Le chalutier breton et ses 5 marins pêcheurs ont sombré dans les eaux anglaises en 2004. Hier à Londres, les secouristes britanniques ont témoigné et deux d'entre eux ont expliqué avoir aperçu un sous-marin dans la zone du naufrage. Une information enterrée à l'époque par leur hiérarchie. Le récit de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
L'officier de la Royal Navy, Darren Hall, est l'homme qui a sorti de l'eau les corps des marins Yves Glohagen et Pascal Le Floch. Il est à bord du premier hélicoptère qui arrive sur le lieu du naufrage. La voix encore empreinte d'émotion, il raconte au juge sa descente dans une mer très agitée qu'il compare aux montagnes russes, la difficulté à ramener les corps et sa peur de mourir quand la corde qui le relie à l'hélicoptère menace de céder. Après avoir déposé les victimes dans l'hôpital le plus proche, l'hélicoptère retourne sur zone et c'est là que Darren Hall et ses collègues aperçoivent et reconnaissent un sous-marin néerlandais. Face à la cour, son collègue, le pilote de l'hélicoptère, précise « C'est inhabituel de voir un sous-marin durant une opération de sauvetage ». Mais à leur retour sur base, leur commandant affirme qu'il ne juge pas nécessaire de signaler la vue de ce sous-marin. Mal à l'aise avec cette décision, les deux hommes n'obtiendront jamais d'explication. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
C'est l'un des établissements les plus prestigieux de France, Centrale Supélec. Le parquet d'Evry ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle.
C'est le directeur de l'école qui a alerté la justice après une enquête menée en interne. Résultat, une centaine de cas de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol commis lors de l'année scolaire. Et dans 9 cas sur 10, l'auteur est un étudiant.
6h04, la suite du journal de Romain Oquet avec la galère pour décrocher un rendez-vous chez son ophtalmo. On l'a tous vécu au moins une fois.
3 mois, 6 mois d'attente, parfois même. Eh bien, bonne nouvelle ce matin sur Europe 1. Le syndicat de la profession l'affirme, les délais s'améliorent. Comptez désormais 4 semaines d'attente en moyenne pour changer votre paire de lunettes. Ça vous concerne, Sébastien?
Absolument.
Afsané Saboui, l'explication
aussi,
exactement, que j'ai changé récemment d'ailleurs. Afsané Saboui, l'explication, c'est une meilleure organisation dans les cabinets de consultation.
Oui, le secret de cette réduction des délais, en fait, c'est la répartition des tâches. Dans le cabinet d'un ophtalmo, aujourd'hui, exercent en parallèle un ou plusieurs orthoptistes et ils voient les patients avant le médecin. Thierry Bourg, président du syndicat national des ophtalmologistes de France.
Les orthoptistes n'étaient pas du tout préparés initialement à faire l'activité qu'elles réalisent aujourd'hui. Maintenant, elles peuvent faire par exemple la mesure de la réfraction, l'acuité visuelle, et puis aussi l'interrogatoire du patient. Et puis les orthoptistes ont également la possibilité maintenant de faire un certain nombre d'examens complémentaires, comme les champs visuels, la prise de photographie du fond d'œil, ou l'OCT qui est une sorte de scanner de l'œil, enfin de la rétine et du nerf optique. Donc tout ça, ça fait gagner beaucoup de temps à l'ophtalmologiste.
Selon les régions, entre 70 et 80% des ophtalmos ont adopté ce mode de travail aidé. Et paradoxalement, c'est l'Île-de-France qui est un peu à la traîne pour des problèmes d'exiguïté des cabinets. Mais bon, la filière visuelle peut vraiment servir d'exemple pour d'autres disciplines médicales, comme la pédiatrie ou la gynécologie.
Afsané Saboui, spécialiste santé d'Europe 1.
On va rêver un peu avec vous, Romane. Un lac d'eau liquide sur Mars. C'est confirmé par le rover de la NASA Perseverance.
Le petit robot collecte depuis février des échantillons de roches. Il envoie aussi des images collectées grâce à une caméra. 8 mois après son arrivée sur la planète rouge, il commence donc à livrer ses premiers secrets lors d'Autriche.
Les scientifiques en sont désormais certains. Dans le cratère où a atterri le robot Perseverance, il y avait un lac il y a 3,5 milliards d'années. Un lac de 35 km de diamètre, deux fois plus petit que la taille du lac Léman. Et deux vallées entouraient ce lac. Des couches de sédiments observées par la caméra montrent qu'il y a eu des crues soudaines sur Mars, de forts courants, mais un changement climatique majeur a rendu cette planète froide et aride telle qu'on la trouve aujourd'hui. À un moment, le lac s'est asséché, explique Cathy Quentin-Nataf, géologue martienne.
L'évaporation du lac va laisser effectivement des minéraux particuliers, d'ailleurs qu'on cherche, hein, Mais alors, depuis l'orbite, on n'avait pas particulièrement observé de selles. Mais après, le rover va nous réserver probablement des surprises.
Le robot va maintenant avancer dans cette zone à la recherche de traces de vie, de molécules composées de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, les molécules qui constituent le vivant, avec l'espoir de trouver sur Mars de la matière organique qui a été préservée.
Voilà, d'autres révélations en perspective. C'était Laure d'Autriche, spécialiste sciences d'Europe 1.
Merci à vous, Romain Nocquet. C'était le journal de 6h sur Europe 1.
Il est 6h07, le journal des sports.
Sur les sports, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et une victoire renversante des Bleus hier soir.
Oui, au terme d'un match dingue, l'équipe de France est venue à bout de la Belgique hier, menée 2-0 à la mi-temps, en panne d'idées devant, en retard derrière. On ne donnait pas cher de la peau des Bleus et puis les stars se sont réveillées. D'abord Benzema, puis Mbappé sur pénalty avant le coup de grâce.
Allez Théo, ah, oh, il a pris le temps de contrôler.
Voilà le but de Théo Hernandez sur TF1 hier soir au bout du temps réglementaire. Victoire 3-2 quasiment inespérée et un sélectionneur Didier Deschamps fier de ses joueurs.
Il y a eu cette réaction, cet orgueil qui nous a mené à renverser une situation qui était très compliquée. C'est fabuleux ce que l'équipe de France a réussi à faire en étant menée 2-0. À part moi, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient penser qu'on allait renverser cette situation. On l'a fait, c'est le mérite des joueurs. Il y a toujours cet état d'esprit, cette force de caractère, en plus de la qualité qui est là, pour inverser la tendance.
Les Bleus retrouvent l'Espagne dimanche pour la finale de cette Ligue des Nations. Un match à suivre en direct dans Europe 1 Sport. Coup d'envoi 20h45, ça sera à Milan.
Après les grands hier, place aux jeunes aujourd'hui.
Oui, les Espoirs affrontent l'Ukraine cet après-midi à Brest. Après leur match nul contre les îles Féroé en septembre, les Bleus doivent se relancer dans la course à la qualification pour l'Euro 2023. Et puis en bref, toujours un rachat qui va faire parler. Après les Qataris à Paris, les Émiratis à Manchester City, c'est au tour des Saoudiens d'investir dans le foot. Le fonds souverain du Royaume des Saouds a racheté hier le club anglais de Newcastle. Vous entendez les supporters du club qui fêtent la nouvelle car les Magpies deviennent potentiellement le club le plus riche du monde.
Et puis du rugby à 13 pour finir, Martin.
Oui, une fois n'est pas coutume, avec une finale historique. Demain, les Dragons catalans, le club de Perpignan, affrontent les Anglais de Sainte-Hélène dans le temple de Old Trafford. Pour se rendre compte de la portée de cet événement, il faut savoir que les Dragons, c'est un peu les irréductibles Gaulois, le seul club français engagé en Super League face à 11 clubs britanniques. Une victoire demain pour la première grande finale d'un club français serait un exploit inédit et un coup de projecteur formidable pour ce sport moins populaire que son cousin, le rugby à 15.
C'était le journal des sports de Martin Lange. Merci Martin.
6h09 sur Europe 1, vous restez avec nous dans un instant. Un événement inédit aujourd'hui, le sommet Afrique-France sans chef d'État africain. C'est une première sur fond de tension entre Paris, Bamako et Alger. On en parle avec la ministre Elisabeth Moreno qui est à Montpellier pour ce sommet. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h12, très bon début de journée en ce vendredi. L'un des événements du jour, c'est le sommet Afrique-France à Montpellier, sans chef d'État africain. C'est du jamais vu. La France veut donner un coup de jeune à sa relation avec le continent africain. Comment ? Eh bien, on voit ça avec Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre.
Bonjour Elisabeth Moreno.
Bonjour Sébastien Guyot.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, ministre délégué en charge de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Vous participez aujourd'hui au sommet Afrique-France à Montpellier, le 28e du nom. 3000 participants, dont un millier de jeunes issus du continent africain. Un sommet inédit, puisque pour la première fois depuis 1973, depuis 48 ans donc, aucun chef d'État africain n'a été invité. Pour quelle raison ? Quel est le message de la France ?
Eh bien, simplement parce que finalement, cet événement, c'est une sorte de miroir du discours de Ouagadougou que le président de la République avait donné en novembre 2017, où déjà à l'époque, il avait permis de placer la jeunesse au cœur du partenariat entre la France et le continent africain, et en particulier autour des enjeux d'éducation et d'enseignement supérieur, d'entrepreneuriat ou d'innovation, de culture et de sport. Et je pense que le président de la République, dans sa volonté de vouloir créer, de vouloir construire une nouvelle histoire entre l'Afrique et la France, a souhaité que nous nous adressions particulièrement aux sociétés civiles qui sont souvent des actrices essentielles du changement.
Alors ce discours de Ouagadougou au Burkina Faso dont vous parlez, c'est un discours qui avait suscité beaucoup d'espoir 4 ans plus tard. Où est-ce qu'on en est de la relation de la France à l'Afrique ? On sait que quand même ce sommet s'est organisé dans un contexte de tensions fortes avec plusieurs pays, le Mali, l'Algérie, pour ne citer que.
Oui, absolument. Moi, je vais vous dire, on a énormément avancé, je trouve, en tout cas. Je pense, par exemple, au rapport qu'il a demandé à Benjamin Stora, qui a conduit à la reconnaissance de la responsabilité de la France sur certains sujets, comme vous le savez. On a également eu le travail de mémoire qui a été fait avec le Rwanda, qui a également été très apprécié. Le président a pris la parole il n'y a encore pas très longtemps pour dire qu'il était absolument nécessaire et indispensable que les pays les plus pauvres aient également accès au COVAX et que 20% des vaccins devraient aller vers ces pays pauvres. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre depuis.
En effet, ce sont des gestes forts, on est d'accord Madame la Ministre, mais vous ne répondez pas à ma question sur ces tensions actuelles malgré tout avec le Mali, avec l'Algérie. Le ton est encore monté cette semaine, le ministre algérien des Affaires étrangères qui accuse Emmanuel Macron de faillite mémorielle. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Alors, d'abord, je préfère que ce soit le président de la République qui réponde à ce genre de questions. Mais vous savez, les tensions entre États sont toujours présentes. Ce que je sais, c'est que le dialogue est toujours entretenu. C'est que nous n'avons absolument pas abandonné le Mali. Et je rappelle quand même que c'est le Mali lui-même qui a demandé à la France de s'impliquer dans ces conflits pour éviter justement que les tensions qui existent et le terrorisme qui s'y propage puissent s'arrêter. Vous savez, nous avons avec l'Afrique des relations fortes. Il n'y a que 15 kilomètres qui séparent le continent africain de la France. Nos histoires sont liées et par conséquent, dès lors qu'il y aura toujours du dialogue et que nous continuerons d'échanger, eh bien, je pense que les choses iront bien. Dans tous les couples, il y a des conflits, il y a des malentendus. Dès lors que ces malentendus sont clarifiés, je pense que les relations peuvent continuer plus sereinement.
Alors, est-ce que ce sommet peut permettre de clarifier les situations ? On sait que Achille Mbembe, l'intellectuel camerounais, qui est très influent en Afrique, c'est l'un des architectes de ce sommet. Il a remis un rapport mardi à Emmanuel Macron pour refonder les relations entre l'Afrique et la France. Il dit, voilà, il est temps que la France et l'Afrique se parlent sans tabou. Comment la France compte s'y prendre ?
La manière dont nous pouvons nous parler sans tabou, c'est de nous adresser à la jeunesse. Il ne vous a pas échappé que la jeunesse n'a absolument aucun tabou sur quelques questions que ce soit. J'ai eu la chance de rencontrer certains d'entre eux hier à l'Élysée avec le président de la République et je peux vous assurer qu'aucun tabou n'existera dans les conversations que nous allons avoir. La parole est complètement libre. Les personnes qui ont été invitées à ce sommet sont des personnes qui s'expriment, qui sont de la société civile, qui sont dans la culture, qui sont dans le sport, qui sont dans le monde associatif. Il y a des personnes avec un langage très libre et de toute façon, elles auront la possibilité d'expliquer elles-mêmes la manière dont elles ont souhaité participer à cette rencontre. Et puis, je voudrais également préciser que les Africains des diasporas, donc des franco-africains, assisteront également à ce forum. Et donc, c'est vous dire que toutes les questions qui concernent nos relations avec le continent africain seront abordées. Mais pas que, il y aura la parole libre pour les franco-africains, pour qu'ils puissent exprimer la manière dont ils vivent leur double culture, la manière dont ils sont intégrés dans notre pays, la manière dont ils contribuent au développement de notre pays. Et donc, encore une fois, les discussions seront larges, elles seront ouvertes et je souhaite qu'elles soient le plus constructives possible.
Une dernière question rapide, avec une réponse rapide, Madame la Ministre. La jeunesse est là, la société civile est là, lors de ce sommet, pas les chefs d'État et de gouvernement, vous n'avez pas peur de les froisser ?
Oh, bah, vous savez, on ne les froissera pas dans la mesure où le président de la République est en relation constante et permanente avec les chefs d'État. Moi, je sais que le président a décidé de mettre au cœur des discussions avec l'Europe lors de notre présidence au mois de janvier les relations avec l'Union africaine. Donc, je peux vous dire que les relations sont sereines et que les chefs d'État africains ont compris la démarche du président de la République.
Merci Elisabeth Moreno d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, ministre déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Bon sommet à vous.
Merci.
6h18 sur Europe 1, vous restez avec nous dans un instant, la partition de la chanteuse de jazz suédoise Lisa Ekdahl.
Europe Matin.
Omblin Roche, Sébastien Guyot.
6h20, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi avec Alban Le Prince.
La prestigieuse école d'ingénieurs Centrale Supélec dans la tourmente après la révélation dans une étude de centaines de violences sexuelles sur l'année universitaire. Les étudiants concernés confient que dans près de 9 cas sur 10, leur agresseur est un autre élève. Le parquet d'Evry ouvre une enquête préliminaire. La Pologne se dirige-t-elle vers un pôle exit ? Bruxelles prête à utiliser tous les outils pour faire
faire respecter le droit européen, alors que la plus haute juridiction polonaise a jugé hier une partie des traités européens incompatible avec sa constitution. Les Diables Rouges survoltés en première mi-temps, dépassés en deuxième, remontada des Bleus hier en demi-finale de la Ligue des Nations. Menés 2-0 en première mi-temps par les Belges, ils ont signé une magnifique victoire, 3-2.
Et on termine avec votre partition Omblin. Voilà maintenant 25 ans qu'elle est l'une des grandes représentantes du jazz vocal européen, la chanteuse suédoise Lisa Ekdahl, de retour aujourd'hui avec un nouvel album.
Lisa Ekdahl, Sébastien, c'est une voix reconnaissable entre toutes, si singulière. Son nouveau disque est une collection de reprises de chansons pop et folk. Elle reste cependant fidèle à son style aérien et poétique. Sur Grand Songs, c'est son titre, Lisa Ekdahl fait se côtoyer les Beatles, Billie Eilish, Beyoncé ou encore Bob Dylan.
Most of the time I'm clear, focused all around, most of the time.
C'est justement grâce aux partitions de Bob Dylan que Lisa Ekdahl apprend à jouer de la guitare.
Grâce à un ami de la famille, il lui fait découvrir les morceaux des grands musiciens folk. À la fin des années 80, Lisa Ekdahl a 18 ans et se produit dans un club à Stockholm lorsqu'elle rencontre le pianiste suédois Peter Nordahl, avec qui elle s'apprête à faire un petit bout de chemin. Et les années qu'elle va passer sur les scènes des clubs de jazz vont faire son éducation musicale.
Baby, baby, make up your mind, 'cause I've been waiting such a long, long time.
Et étonnamment, les deux premiers albums qu'elle enregistre en suédois sont des disques de musique pop.
Voilà, elle gagne le statut de vedette locale. Lisa Ekdahl raconte qu'elle va renouer avec le jazz grâce à un concours de circonstances. Une entreprise lui propose d'enregistrer un disque de standard, mais uniquement destiné à ses clients. Ces enregistrements confidentiels vont arriver aux oreilles d'un label qui va décider de le commercialiser en Europe.
I'm floating like a dove.
On l'évoquait plus tôt et on l'entend d'ailleurs. Lisa Ekdahl sort du lot grâce à ce grain de voix hors du commun.
Oui, un timbre discret qu'elle partage avec son idole Peggy Lee, un peu à la Blossom Derry, une autre icône du jazz vocal. Une petite voix enfantine, pleine de charme et comme ses illustres aînés, et pour la mettre en valeur, Lisa Ekdahl a besoin d'une orchestration tout en retenue. Et le trio du pianiste Peter Nordahl, qui l'accompagne aussi en studio, l'a bien compris.
Et son premier album enregistré en anglais fait d'elle la révélation de l'année 1997.
Pas besoin de publicité, le bouche à oreille suffit, les ventes de When Did You Leave Heaven sont un succès. Les salles de concert intimistes, particulièrement à Paris, se remplissent. Et c'est alors une opportunité en or qui se présente. Sa reprise de It's All So Quiet est choisie pour illustrer une pub, tiens, d'une prestigieuse marque de parfum. La popularité de Lisa Ekdahl devient alors mondiale.
It's all so quiet. It's all so still. You're all alone and so peaceful until you fall in love. Zing, boom, the sky up above. Zing, boom, is caving in.
Lisa Ekdahl avec la chanson qu'il a fait connaître il y a presque 25 ans, son nouvel album, la chanson It's So Quiet, une reprise bien sûr. Son nouvel album Grand Songs sort aujourd'hui.
Et ça change de la reprise de Björk. Oui. Merci à vous, Aline.
Merci.
Dans un instant sur Europe 1, Dimitri Pavlenko va entrer dans ce studio pour vous informer jusqu'à 9h. A tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27 sur Europe 1. Merci de vous être réveillé avec nous et on vous donne rendez-vous lundi à partir de 5h.
Excellente matinée qui se poursuit en compagnie de Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. Bonjour Dimitri.
Bonjour Sébastien, bonjour Omblin.
Bonjour.